Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc voilà, nous y sommes avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission qui vous rappelle, chers citoyens, que nul n'est au-dessus de la loi et que nous sommes tous égaux devant la justice. Les dérapages qu'ils ont désaxé, si vous voulez, notre équilibre social est dû en grande partie à notre désintéressement à la vie politique, au point de ne plus savoir comment s'en défaire une fois pris en piège. Je comprends que la complexité de la vie sur tous les fronts nous éloigne progressivement de la scène politique. Les lois tombent sur nous comme des tonnerres sans être forcément d'accord, et je vous réaffirme que ce n'est pas toutes les lois qui sont justes et intègres. L'arbitraire naît justement chaque fois que le public tourne le dos à son engagement et à son devoir de citoyen. Nous sommes, si vous me le permettez bien sûr, devenus type indifférent, fataliste. Le destin de notre avenir et celle de nos enfants flou, quelle que soit l'obscurité annoncée, nous nous dérange très peu, sinon pas du tout. Et donc, notre cheval de bataille est plutôt trop accentué sur notre égoïsme. On dit « moi » et les déluges après. Alors moi je vous dis, chers citoyens, si vous ne contribuez pas à l'action populaire, si la solidarité pour le peu n'est pas de votre avis, si vous continuez d'être absent de la place publique, les projets collectifs qui nous tiennent à cœur, nous les citoyens, ne vous inspirent point. Et si votre indifférence l'emporte au bout du chemin, alors écoutez ça bien. Ça sera le déluge sûrement, et vous le suivez très peu de temps après. Maintenant, je vous pose cette question suivante. Pourquoi on change une loi puisqu'il y avait déjà une? Eh bien, vous allez peut-être tous me répondre parce que les lois n'étaient simplement plus bonnes, ou c'est tout à fait vrai d'ailleurs, parce que les lois sont devenues visiblement injustes, arbitraires. La continuité de leur existence et leur application causeront un risque potentiel aux institutions concernées, ou plus simplement ébranle un petit peu la stabilité de l'État. Donc vous savez toujours, et ceci dans la plupart du temps, que c'est le public, le citoyen qui dénonce l'inefficacité d'une loi. C'est le citoyen qui assume d'avaler la pilule de la loi telle qu'elle est prescrite par le législateur. Mais il arrive que la pilule est difficile à avaler. Alors le citoyen fait un effort et ça ne marche pas. Puis il refait un effort et un autre et ça ne marche pas non plus. Et comme il n'y a pas de recul devant une loi, le citoyen devra continuer à prendre cette pilule, mais à un moment donné, il tombe malade. Mais malheureusement, il devra continuer à la prendre, cette pilule, sans arrêt. Et justement, à un moment donné, il proteste contre la prise de la pilule. Mais rien à faire, il devra continuer à l'avaler pareil. Mais écoutez, il perd ses cheveux, ses sourcils, tout ce que vous voulez, et il continuera à la prendre. Une mère, imaginez-vous, il continuera à la prendre pareil. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société modèle par défaut? On vous dit qu'il est mort le citoyen et vous lui prescrivez la même pilule. Arrêtez, bon Dieu, il n'est plus maître de son corps et vous continuez à lui ingérer la même pilule. Je comprends que celui qui continue à lui faire avaler la même pilule ne se rende pas compte de l'état de la décomposition du citoyen. Mais ce qui nous inquiète tous, c'est que d'autres lui font signe d'arrêter sa bêtise, mais malheureusement en vain. Vous constatez comment un gouvernement peu soucieux de l'intérêt public traîne la négligence à force de bras. Il la traîne pendant des années et des années. Et quand ça devient plus scandaleux, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire ce gouvernement-là? Il va prescrire d'autres pilules, pareil, semblables, les mêmes composants chimiques, calculés au centimètre près. Ajouter une dose plus forte de somnifère, mais on garde plus le même emballage, non plus le caractère de l'écriture et encore moins l'utilité de la pilule. Et finalement, on fait une grande publicité autour. Voilà une loi qui corrige les torts causés et qui réconforte les victimes et même les rassurants, si vous voulez. On travaille pour vous faire avaler une pilule avec un goût meilleur, mais le fond demeure le même. Voilà donc ce qui nous amène à ce nouveau projet de loi 46, la création d'un bureau de surveillance des enquêtes policières composé uniquement de civils. C'est le rêve de tout le monde et ceci depuis très longtemps. Alors le gouvernement du Québec voulait exaucer ce souhait en période de fête et il va vous offrir à la population québécoise ce nouveau projet de loi longtemps attendu, souhaité, rêvé, une réforme réclamée et ordonnée par toutes les tribunes populaires à travers la province. La situation est rendue à un point de non-retour. La pilule avait fait plusieurs victimes. La population n'en est plus et la réforme s'est réclamée elle-même. N'oublie pas que la mort de Frida Villanova a été un mauvais signal et la métropole s'est échappée bel et bien. On découvre finalement que cette pilule est néfaste et qu'il faut la remplacer en urgence. Maintenant, devons, ou plutôt revenons, si vous voulez, à ce projet de loi qui, soi-disant, remplacera la politique ministérielle en vigueur. Attention, il ne faut pas être trop optimiste. Après notre thème musical, nous allons ensemble déballer ce nouveau cadeau en temps de fête, un cadeau offert par le gouvernement du Québec à la population québécoise. Permettez-moi aussi, avant, quelques instants avant, de signaler. Donc, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne, ne s'occupant principalement de la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Une tâche non accomplie, puisque malheureusement, nous n'avons pas les moyens de base pour l'accomplir. Vous pouvez nous contacter au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Dans cette émission, j'ai, comme d'habitude, à mes côtés mon collègue Roland Cazès, un citoyen avide de justice avant d'être un militant de la première ligne. En face de moi, Mme Rosemonde Legault, le nom est à la mode ces temps-là. Mme Legault, qui s'occupe de la technique du son de l'émission, participera à nos débats sur ce plateau. J'ai annoncé que nous allons déballer ensemble le projet de loi 46, mais bien sûr d'une manière très sommaire. Puis nous allons vous présenter le témoignage d'une nouvelle victime de l'abus de l'autorité. Vous allez suivre en direct avec nous un nouveau épisode de la brutalité de nos agents de la SPVM. La grande question qui revient tout le temps, c'est de voir comment le pouvoir traite les citoyens et la nécessité urgente de nos politiciens de revoir ce volet. Les plaintes n'arrêtent pas de se défiler devant nos bureaux. La situation reste inquiétante. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Nous reviendrons avec vous après cette pause musicale.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, où vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Bas-fond, la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passe passait dans sa tête. Combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, revenons d'abord à ce projet de loi 46. L'annonce du ministère de la Sécurité publique, Robert Dutille, de la création d'un bureau civil des enquêtes indépendantes, cette nouvelle politique ministérielle est mise en place seulement en cas de décès, une blessure grave laissant craindre pour la vie, ou plutôt une blessure résultant de l'utilisation d'une arme à feu, bien sûr impliquant un corps policier. D'une source officielle, nous avons été informés que sur 339 enquêtes indépendantes sur des corps policiers entre 1999 et 2011, on retient seulement 3 accusations. Et quel bordel d'accusations ou de sanctions! Je vais essayer de vous citer un bref exemple sur de telles sortes d'accusations ou de sanctions, si vous voulez bien. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que chaque fois qu'un policier abat un citoyen, d'une manière ou d'une autre, la version est toujours la même. On parle de légitimité de défense. Et pourtant, des centaines et des centaines de témoignages, dans plusieurs cas, démontrent tout à fait le contraire. Donc, le public avant tout avait toujours réclamé, ceci depuis plusieurs années au gouvernement, la réforme de cette loi en vigueur, une loi qui a violé délibérément les droits des citoyens victimes, de leurs familles, incluant le droit de l'ensemble de la société, vu qu'une injustice sur un citoyen vaut une injustice sur l'ensemble de la société. Voilà ce qui complique un peu les choses. Un corps policier, pour des milliers de raisons, ne peut se permettre d'accuser un autre corps policier d'actes criminels ou de négligence. L'esprit du corps, malheureusement, l'emporte dans tous les sens, et de là vient la vraie difficulté de convaincre cet esprit un peu borné des risques élevés à s'assurer de leur impartialité. Je vous ai dit il y a quelques instants que je vais vous citer un exemple parmi certains, bien sûr, sinon peut-être il y a plus, où les policiers impliqués dans des morts violentes ou des blessures graves, pour ne pas dire plus que ça, vont, à toute fin de l'enquête, être acquittés de tout soupçon, et pourtant, quand il s'agit d'un civil accusé, les règles sont beaucoup plus strictes et parfois même douteuses. Les enquêteurs qui procèdent à ce genre d'enquête possèdent souvent les meilleures méthodes pour protéger leurs confrères contre des poursuites judiciaires, et le rapport d'enquête va toujours blanchir la présomption de l'inconduite des agents impliqués. La partialité de l'incompétence à défaut de l'esprit du corps bascule fortement, je dis bien, le corps policier à commettre des injustices irréparables. Et j'arrive, voilà, à mon exemple, c'est le cas de monsieur Jean-Pierre Lézotte. Cet itinérant battu et négligé par 2 policiers de la SPVM, l'agent Giovanni Stante et Sylvain Fouquette, me soulève le cœur chaque fois que je pense à cette tragédie. Et le comique de l'injustice fait que les choses continueront à nous faire rire, à nous faire pleurer. Ce n'est pas parce que M. Jean-Pierre Lézotte est décédé très peu de temps après l'agression policière du 5 septembre 1999, mais ce qui, en 2002, les 2 policiers, l'agent Stante et l'agent Fouquette, accusés dans ce dossier, ils étaient tous les 2 acquittés d'homicide involontaire, de voies de fait graves et d'avoir causé des lésions corporelles à M. Jean-Pierre Lézotte. Ce dernier n'est qu'un simple itinérant parmi ceux qui meurent tous les jours en marge de notre société, sans que personne ne s'aperçoive. Monsieur Jean-Pierre Lesotte n'avait tristement ni le poids ni le statut d'un citoyen pour que ses droits soient protégés. Voilà pourquoi il était une proie facile à atteindre, facile à ignorer et à classer. Et pourtant, l'agent Giovanni Stant avait reconnu qu'il avait frappé à plusieurs coups de poing le visage de Monsieur Lesotte lors de cette soirée de 5 septembre 1999. Il a reconnu aussi que le sans-abri était au moment de son arrestation dans un état d'intoxication avancée. Monsieur Jean-Pierre Lesotte était très faible cette soirée-là. Il avait de la difficulté à avancer un pas en avant. Mais l'agent Giovanni Stant s'est défendu par la thèse de vouloir chercher par des coups de poing en plein visage, à pleine force, déstabiliser, soi-disant, l'itinérant et le maîtriser. Coups de poing allant jusqu'à fracture les os propres au nez. C'est ce que les radiographies quelques heures après l'agression ont dévoilé. Tout ça, c'est rien par rapport à ce qui suit. Vous ne savez peut-être pas qu'une fois sur le sol, Jean-Pierre Lesotte ne bougeait plus. Il marmonnait des paroles incompréhensibles. Il était hors toute manœuvre. Qu'est-ce que nos braves policiers avaient fait une fois que le corps de M. Jean-Pierre Lesotte a embrassé le sol? Qui parmi vous, mes chers citoyens, pourra nous dire qu'est-ce qui a été arrivé à ce pauvre dans ce décor qui brise le 42, le visage percé du sang, les yeux noyés dans le blanc et la respiration presque absente? Est-ce que nos braves policiers avaient appelé une ambulance pour le transporter à l'hôpital? Est-ce que ces braves policiers avaient senti un peu de remords pour changer leur attitude envers ce malheureux qui n'a jamais choisi ce destin, ni cette putain de vie non plus? Alors il était par terre, en train de marmonner des bribes de mots incompréhensibles selon des témoins. Les deux agents l'ont menotté, transporté comme un animal inerte à leur fourgonnette de police, jeté sur la banquette en arrière sans l'attacher, puis ils ont quitté la scène du crime, partir selon des témoins comme une flèche vers l'hôpital. Mais ce n'est pas encore fini. Si vous mettez quelqu'un, par exemple, minoté, tout à fait inconscient, sans l'attacher sur l'arrière d'une banquette de votre voiture, selon vous, mes chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez qui lui arrivera? De toute façon, les radiographies, une fois prises à l'urgence, ont révélé autre chose plus importante que les fractures des os propres au nez. Monsieur Lesotte avait une fracture au niveau de la colonne cervicale. Résultat, mes chers citoyens, Jean-Pierre Lesotte était paralysé totalement de la partie inférieure de son corps. Puis il meurt très peu de temps après. Mais bon de Dieu, vous allez me dire sûrement qu'est-ce qu'il a fait ce type-là pour mériter toute cette souffrance. À écouter seulement l'histoire, ça nous soulève le cœur. Quel crime aussi grave avait-il commis pour subir ce traitement inhumain? Qui entre nous acceptera d'être à la place de cet individu qui n'a pas eu l'occasion de se défendre? Après une pause musicale, je veux répondre à la première question et n'oublie pas que nous réagissons présentement contre le projet de loi 46. Les policiers continueront d'enquêter sur d'autres policiers? Un bureau de surveillance civile est-il suffisant, compétent d'agir devant la ruse des corps policiers? Chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute, l'épisode de la tragédie est tout à fait loin d'être encore fini.
De mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
Donc voilà, chers auditrices, chers auditeurs, revenons à la suite de cette injustice commise depuis 12 ans maintenant et qui n'est pas encore finie. Hein? Et de quelle sorte de fin s'agit-il? Donc la raison pour laquelle les policiers Giovanni Stante et son collègue Sylvain Fouquet avaient été appelés sur le lieu de l'incident, c'est que M. Jean-Pierre Lizotte, et pour une raison dont personne ne pourra nous répondre, il s'est mis à se masturber devant les clients d'un restaurant. Selon tous les témoins présents cette soirée-là, un peu trop tardif, M. Lizotte était définitivement absent d'esprit. Je l'avais déjà dit qu'il était dans un état d'intoxication avancée. Alors, qu'est-ce qu'il était conscient, et plutôt il était conscient ou non, à ce moment-là, ou à cette infraction, je ne peux le confirmer, mais une chose certaine, qu'il était conscient ou non, est-ce qu'il mérite le traitement qu'il a eu de la part des policiers? Vous avez tous suivi probablement cette année l'histoire de l'acteur et la star du cinéma français, Gérard Depardieu, qui le 17 août dernier avait, au moment d'un décollage d'avion, il s'est mis soudainement debout, puis il a exhibé son sexe devant tous les passagers de l'appareil, et il a commencé à pisser en plein milieu du passage, du couloir de l'avion. D'ailleurs, l'éclaboussement de son urine avait atteint certains passagers. Il y a quelqu'un qui a dit un mot? Personne. Est-ce qu'il y avait des policiers qui sont partis en renfort pour l'arrêter? Non plus. Est-ce que Gérard Depardieu était blessé ou était tabassé ou était insulté? Jamais non plus. Tout le monde riait. C'était comique. Seule justification donnée, la star avait bu un verre de plus, compréhensible pour le reste de la planète. Il était saoul, inconscient. Il n'avait pas le choix, le pauvre. L'envie de pisser était trop fort. Voilà ce qu'il justifiait de se mettre debout et pisser sur les autres. Mais M. Jean-Pierre Lizotte, est-ce qu'il y avait une excuse pour lui? Aucune tentative de compréhension, aucune compassion possible, aucune retenue. Le type n'avait pas le statut de citoyen à part entière. Les droits civils ne le concernent pas. Se défouler sur un type comme lui, c'était l'occasion à ne jamais rater. Voilà cette histoire que je peux d'ailleurs détailler sur des heures et des heures, nous amène à comprendre pourquoi le comité d'adiontologie policière, cette institution bidon qui œuvre à sens unique, avait, en 2008, blâmé ces deux policiers, l'agent Giovanni Stante et Sylvain Fouquet de la SPVM. Ils étaient soi-disant attrapés par cette institution qui avait en définitive honte de voir une telle situation s'échapper à la justice. Donc ils étaient blâmés pour avoir fait preuve de négligence et d'insouciance dans leur intervention auprès des sans-abri. Ils étaient aussi blâmés pour ne pas avoir averti l'infirmière du fait que M. Lizotte avait été frappé au visage à plusieurs coups de poing par l'agent Giovanni Stante. Vous savez très bien maintenant que la justice avait acquitté les deux policiers en 2002, L'enquête policière a démontré qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Alors pour le peu, le comité de la déontologie policière cherchait à sauver la face en montrant du doigt que effectivement il y avait un problème et que ces agents-là méritent d'être sévèrement blâmés. Le service de la ville de Montréal, pardon, qui s'occupe des sanctions, va imposer à ces deux policiers une suspension de 25 jours. Et j'ai bien dit une suspension de 25 jours, je n'ai pas dit 25 ans, j'ai bien dit 25 jours. Les policiers ne sont pas contents de cette décision, appuyés solidement par la fraternité policière, ils vont faire quoi? Ils vont faire appel à la décision devant la Cour du Québec. Cette dernière va casser la décision du comité de déontologie policière en mars 2010. Le comité de déontologie policière fait à son tour appel à la Cour supérieure, demandant la révision du nouveau. L'honorable juge de la Cour supérieure, Claude Laroche, rétablit la décision en concluant. Écoutez bien, il nous paraît impensable que pour un policier en fonction qui assène des coups de poing au visage d'un individu pour le contrôler, que de tels gestes ne résultent pas de l'utilisation d'une force excessive. Et quand j'ai entendu le vendredi passé le président de la fraternité policière faire référence à cette histoire lors de l'émission 24 heures en 60 minutes diffusée par Radio-Canada, comme quoi il avait encore des dossiers qui datent de 1999, j'avais simplement honte à sa place. La fraternité policière va continuer devant toutes les instances possibles pour que le policier fautif dans ce dossier s'en sorte blanchi comme la neige. Je vous le dis et je le répète, l'esprit du corps l'emporte sur la raison et la connerie humaine se propice dans les ordures. Voilà pourquoi il faut abolir définitivement cette politique ministérielle en vigueur, que des civils indépendants se chargent de mener des enquêtes chaque fois que un ou des policiers sont mêlés à des décès ou à des blessures graves lors d'une intervention policière. Nous avons tous entendu les menaces directes, sans gêne et publiquement, du président de la fraternité policière, dans la même entrevue que je viens de citer. Madame Anne-Marie Dussault lui avait fait signe qu'il déconnecte, mais sur la défensive, la raison est souvent absente. Les enquêteurs ne sont pas nés enquêteurs, ils sont pas nés enquêteurs, et les civils peuvent avec une bonne foi devenir des excellents enquêteurs. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé un petit peu la part du mouvement Action Justice, la réaction du mouvement Action Justice pour cette situation-là. Nous allons maintenant passer à la publicité et on revient avec vous dans la deuxième partie avec notre invité d'aujourd'hui.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours.
Et cet animateur.
On dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Ah, oh, ben là, tu fais une surprise!
Puis quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, oui. Une heure de cinéma, derrière l'image, avec Francine Morandeau, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Chaque année, environ un Montréaliste sur six est atteint par la grippe. Plusieurs d'entre eux sont hospitalisés et certains décèdent des complications de cette infection. La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes plus vulnérables. La vaccination est la meilleure protection offerte pour éviter les complications de la grippe. La grippe se propage facilement. Faites-vous vacciner pour vous et vos proches. Contactez votre médecin ou votre centre de santé et de services sociaux pour prendre rendez-vous. Un message du directeur de santé publique de Montréal.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic-chèque-choc. Nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis, camarades, rendez-vous cassé.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Sintonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.
Oh, bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Voilà, donc, oui, donc, voilà, je voulais dire, peut-être avant de céder la parole à notre invité, j'aimerais bien poser à M. Roland Cazès à propos de, vous savez qu'il y a l'article 260 sur la loi de la police qui prévoit qu'un policier a l'obligation de dénoncer toute infraction criminelle ou une faute au code d'ordre policière commise par un autre confrère. Est-ce que vous pensez-vous, depuis l'application de cette loi, est-ce qu'il y a un policier qui a pu faire dénoncer son collègue?
Moi, je m'excuse, mais il y a tellement d'abus. Moi, vous appelez fraternité, moi, je ne me permets pas d'appeler ça une fraternité policière, le syndicat.
Oui, vas-y.
Moi, j'appellerais le syndicat policier, j'appelle ça une confrérie. Ils se protègent mutuellement. Ce n'est pas un syndicat. Un syndicat doit dire tu dois faire bien ton travail, là, si tu veux qu'on te défende. Si tu le fais mal, tu es barré chez nous. Oui. C'est ça. Alors, moi, je prétends que les policiers ne peuvent pas enquêter sur des policiers. Mais il y a une solution. Oui. C'est de mettre un jury enquêteur.
Voilà, c'est qui pour les civils, quoi.
Choisi parmi des gens de toute couleur, de oui. toute religion, de toute race, qui puisse faire un jury avec des gens, naturellement, qui défendent habituellement la cause des citoyens, oui. qui va être permanent. Et naturellement, ce jury va pouvoir décider et enquêter, oui. avoir les rapports du coroner, avoir les vidéos et tout ce qui s'ensuit afin de pouvoir prendre une décision.
Plus important, M. Roland, juste pour finir ce dossier-là pour aujourd'hui, on peut parler des heures et des heures, mais je voulais juste dire que même l'article 260 sur la police pour dénoncer un comportement d'un autre collègue, ça n'a jamais jusqu'à présent, ceux qui ont essayé de dénoncer un collègue, ils sont mis dehors du club, quoi.
Ils sont automatiquement boycottés. Boycottés. Ouais. Alors, comment voulez-vous? C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est une confrérie policière, c'est pas un syndicat policier.
Mais ça devient même difficile parce que le corps policier, c'est difficile qu'un policier va essayer de ne pas, je sais pas comment dire ça, mais il va toujours essayer de camoufler, il va toujours essayer de défendre l'autre avec tout. Il va trouver toutes les raisons possibles, toutes les...
Ben, je prends le cas de la semaine dernière, le monsieur qui a dit qu'il a vu une dame noire qui était enceinte et un policier, des policiers qui donnaient des coups de pied dans le ventre de cette femme. Mais figurez-vous que c'est impensable. Nous sommes tous descendants d'une mère qui nous a portés. Il y a un manque de respect total. Et puis cette pauvre femme, la seule chose qu'elle a dit, oh non, pas de ça, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'elle a fait un rapport contre ses confrères? Non.
Donc voilà, ce qui nous amène directement à passer à notre invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une autre victime d'abus d'autorité. Bonjour, monsieur Crevèche, votre nom ?
Bonjour.
Oui, bonjour, voilà. Ça va bien. Donc, voilà, voulez-vous se présenter aux auditeurs ? Vous êtes...
Je suis un citoyen canadien d'origine est-européenne.
Oui.
Ce fait est très important parce que j'ai passé une grande partie de ma vie dans un régime totalitaire. Et aussi, comme je vous ai écouté tantôt dans votre début d'émission, et oui. j'apprécie beaucoup votre bataille pour dénoncer la petite pilule enrobée de sucre que représente la loi 46.
Merci.
Et d'ailleurs, je vais faire plusieurs fois référence à des œuvres littéraires ou musicales,
oui.
Comme... Je vais tout de suite faire référence à la chanson qu'on vient d'écouter. Je suis quelqu'un qui apprend à me tenir debout dans une nouvelle société que j'ai choisie moi-même
ouais.
pour faire vivre mes enfants et ma famille. Et j'ai rien d'un criminel.
Ça,
pourtant, j'ai été victime d'intimidation, de profilage, de violence et de salissage.
Ouais.
Par contre, ça ne veut pas dire que moi, je veux salir à mon tour.
Ouais.
Je suis là surtout pour deux choses importantes. Un, sensibiliser mes concitoyens sur certains comportements qui risquent de leur être néfastes.
Oui.
Et deux, je veux dénoncer à mon tour le manque de gros bon sens au niveau des services de la paix dans l'île de Montréal.
Service de la paix, vous parlez du service d'agent de police, c'est ça?
Je parle de ceux qui sont censés de nous protéger à la place de nous terroriser.
Oui. Oui. Mais là, tu fais référence directement à l'événement que tu as eu. Hein. Je veux savoir, avant de vous interrompre, je m'excuse de vous interrompre, je veux savoir, vous vivez ici depuis, j'imagine, une quinzaine d'années?
Oui. Dans la majorité, j'ai passé à être obligé de refaire une beauté en études. Parce oui. qu'être immigré, ça veut dire être obligé de se refaire de from the ground up, comme on dit ici.
Oui, oui. Et donc, vous êtes obligé de refaire toutes ces études et tout. Vous êtes présentement, vous suivez des cours à l'université, des cours supérieurs. Et vous vivez à la rive nord ou...
Oui, j'habite à la rive nord. C'est une des joies de vivre en banlieue. C'est une autre boîte de Pandora dans laquelle je ne veux pas rentrer, mais je dois dire qu'en été, je prends ma bicyclette pour me rendre en ville. Ce n'est pas seulement un choix économique, je sens que c'est un choix aussi responsable.
Ouais.
Parce que si tout le monde se mettait dans la voiture pour exercer son droit américain de la liberté personnelle, on sait qu'est-ce que ça donne. Ça donne un stationnement sur l'autoroute 13 et un stationnement sur la route 15 en heure de pointe.
Alors, on va passer un petit plus pointu. Donc, vous rendez à Montréal une journée. C'est quel jour?
C'était un mardi, le 31 mai cette année.
Donc, vous êtes venu en bicyclette parce que vous avez choisi de prendre la bicyclette à la place de la voiture et se rendre à Montréal, c'est ça?
Oui, il y avait plusieurs raisons pour ça. La raison principale étant que j'avais pas dormi probablement toute la semaine qui précédait cette date-là.
Oui.
Je me sentais vraiment très fatigué. J'avais dormi environ 3 heures la nuit précédente et je me sentais pas. C'était pas responsable de prendre la voiture.
Okay. J'ai vous avez opté choisi le vélo. Vous avez opté pour la bicyclette.
Oui, pour avoir une solution qui est moins dangereuse, dans laquelle il faut quand même être concentré. On s'entend.
Donc vous arrivez à Montréal à quelle heure? Vers 8h, 9h du matin, j'imagine.
Je suis arrivé à l'île de Montréal. Il était probablement 8h moins le quart.
Vous avez pédalé pendant une heure, j'imagine.
J'avais déjà pédalé pendant 20 km. Donc
20
j'étais,
km de,
j'étais un peu fatigué.
Trajet,
déjà que j'étais pas reposé. Et je me suis un peu égaré de mon parcours. Je me suis retrouvé dans une intersection que je ne connaissais pas.
Voilà. Et donc, il y avait le feu devant vous et vous devrez descendre.
Dans cette intersection-là, il n'y avait pas de feu. Je m'étais retrouvé dans une rue à sens unique. Conséquemment, j'ai dû marcher à côté de mon vélo et je me suis retrouvé en face d'un passage piéton. Il y avait un brigadier scolaire qui gérait la circulation. J'avais aussi le soleil dans la face. Et comme il n'y a pas de feu proprement dit, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un stop et pas d'un feu.
Donc, c'est quand même aveuglé par le soleil en face. Hein, c'est ça.
J'ai été aveuglé, puis j'ai vu aussi que les véhicules étaient tout arrêté dans la direction transversale. Et comme je vous disais, j'étais à côté de mon vélo en piéton, essentiellement.
Donc, vous traversez quand même.
Je traverse devant un véhicule qui était immobilisé.
Vous n'étiez pas sur la bicyclette, vous marchez.
Je marchais, oui.
Okay.
Et je vous rappelle que, comme moi, j'étais dans un paradigme de stop, j'ai même pas fait une tentative de voir s'il y avait quelque chose à titre de feu. J'étais aveuglé par le soleil. Le brigadier scolaire était juste à côté de moi. Il fallait faire attention de ne pas le frapper avec mon vélo. Parce que vous savez comment les gens sont sensibles de se faire frapper par une pédale ou quelque chose.
Tout à fait, oui. Mais malheureusement pour vous, il y avait une voiture de police qui était dans l'autre côté de en face de vous, c'est ça? Vous ne l'avez pas vue dans l'autre côté de la rue?
Je ne l'ai absolument pas vue. Ça vous dit un peu dans quel état de fatigue j'étais aussi.
Tout à fait. Oui.
Aussi, le fait qu'il avait une voiture de police, il faut être idiot pour faire quelque chose de pas correct.
Ouais.
Pour moi, dans ma tête, le véhicule était arrêté dans un stop, et puis moi, je me suis engagé sur le passage piéton, toujours à pied, toujours à vitesse de piéton. Et en ce moment-là, le conducteur du véhicule s'est mis à klaxonner comme un malade.
Oui.
Et c'est justement là que...
Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là.
Oui, évidemment. Mais en ce moment-là, quels étaient mes choix possibles? Je me suis retourné vers le monsieur. J'étais comme tout à fait étonné.
Qu'est-ce qui se passe autour de moi?
Qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement pour moi, j'ai décidé de peut-être encore une fois à cause de la fatigue et une mauvaise réaction de rester un peu figé sur les lieux.
Et c'est là où vous allez entendre la policière ou le policier qui était en face de vous, loin dans sa voiture, klaxonner. Il vous a fait signe de...
Oui, la policière a klaxonné ou sifflé ou quelque chose dans ce style-là. Elle était quand même assez loin et elle s'est mise à crier. Par la suite, on a vu qu'elle avait la voix suffisamment puissante pour pouvoir se rendre à travers plusieurs pâtés de maison. D'ailleurs, deux semaines plus tard, j'ai rencontré le même brigadier scolaire qui se souvenait de l'incident et qui disait qu'il avait entendu presque tout ce qui a été dit parce que son ton était perçant dès le début.
Ok, donc la policière en question, elle vous appelle ou elle vous fait un signe de venir s'approcher vers elle ou c'est des...
Oui, elle me...
Vous êtes allé la voir, vous étiez allé la voir?
Oui, je prends mon vélo puis je le...
Est-ce que vous comprenez pourquoi elle vous a appelé?
Elle est sortie de son véhicule et elle a commencé à crier.
Mais vous, est-ce que vous comprenez pourquoi cette policière, elle a, à un moment donné, a essayé de vous appeler? Est-ce que vous étiez... vous ne savez même pas pourquoi, finalement, elle vous appelle. Elle vous signe.
Elle a commencé à gesticuler et à crier. Regardez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brûlé un feu rouge. Qu'est-ce que vous pensez que vous faites? Et quelque chose dans ce style-là.
Voilà. C'est juste là, à ce moment-là, que vous avez compris comme quoi vous avez brûlé ou grillé un feu rouge, c'est ça?
Au fait, j'étais toujours pas...
Je comprends que vous étiez aveuglé par le soleil, je comprends que vous êtes fatigué, je comprends que vous n'avez pas fait attention, vous savez que vous n'avez pas fait...
Mais regardez, la policière elle-même était dans la voie transversale.
Oui, je comprends.
Donc elle était en attente elle-même d'un feu rouge.
Tout à fait.
Ça ne se peut pas que deux éléments de la circulation qui se trouvent dans
se
soient en même temps sur un feu rouge.
Tout à fait, oui.
Donc, soit que j'étais dans un feu en transition, ou carrément qu'il y avait quelque chose qui...
Non, mais nous, on a compris, monsieur, comme quoi c'était aveuglé par le soleil et sur le poids de la fatigue et tout, vous avez quand même traversé. Donc là, vous traversez sur le jaune ou le rouge ou le vert, la question n'est pas là. Vous arrivez devant la policière en question, elle vous fait signe comme quoi vous avez grillé un feu rouge, c'est ça?
Oui, mais ça restait toujours pas trop crédible.
Pour Bourg, c'est pas trop crédible. Vous voulez nous dire, monsieur Colomb?
J'aurais une intervention. Oui. Tout piéton engagé sur un passage clouté a priorité. Même si la lumière a changé, le piéton a priorité parce qu'il est engagé sur un passage clouté.
Oui.
Tout le monde doit respecter que le piéton se rende à domicile où il devait se rendre.
Oui,
alors il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il est rentré sur une lumière orange ou autre, ça ne lui enlève pas le droit de continuer pour se rendre à l'autre
bout. Enfin, c'est pas grave. Même si, par exemple, il y a un feu rouge et puis il a fait, ce n'est pas la fin du monde. Dis-moi, après l'incident, là, qu'est-ce qui est arrivé? La dame, elle vous dit, la policière, elle vous a demandé quoi?
La policière a commencé à dire que je n'avais pas de documents. Et vous n'avez pas de documents.
Mais comment elle savait que vous n'avez pas de documents? Est-ce qu'elle vous a demandé de donner des documents? Vous avez dit non, quoi.
Non, elle m'a pas demandé. Elle m'a pas dit vos papiers.
Ouais.
Elle a dit et vous n'avez pas de documents.
Ok.
Et ensuite elle a continué sur sa lancée. Et vos proches vont vous retrouver dans une morgue sans papier parce que vous n'avez pas vos documents sur vous et si vous êtes mortellement blessé, vous allez être pendant des semaines non identifiable et donc vos proches vont vous chercher pendant des mois et des mois et vont vous trouver finalement en état de décomposition. Et cette histoire m'a complètement sorti de mes gants.
C'est ça qui vous a un petit peu... Oui,
à ce moment-là, est-ce qu'elle vous a demandé vos documents?
Non plus.
D'accord.
Et elle m'a demandé si j'avais un permis de conduire. Et moi, je lui ai dit que je n'avais pas un sur moi.
D'accord.
Un permis de conduire pour la bicyclette ou...
C'est une bonne question.
Non, vous avez dit sur le coup, vous n'avez pas de permis de conduire.
C'est cela.
OK.
Mais il n'a pas présenté de permis de conduire. Il est sur un bicycle.
Mais c'est pas, enfin,
c'est alors, pour des fins d'identification.
Ouais, ce n'est pas une pièce d'identité.
Est-ce qu'elle vous a demandé de donner une autre pièce d'identité?
Non plus. Elle avait assumé dès le début que je n'avais rien sur moi.
Donc comment avez-vous réagi à partir de ce moment-là? Je pense que c'est le point important.
À ce moment-là, moi je suis quelqu'un de très peureux.
Ouais.
J'ai vécu toute ma vie dans la peur.
Ouais.
Une grosse partie de ma vie d'adulte et d'adolescent dans la peur. Et je vais vous dire pourquoi.
C'est dû à quoi? Oui, c'est ça.
Je vais vous dire pourquoi. Marquez, il parle de 100 ans de solitude et de 6 générations. Moi, je parle de 50 ans de peur et de 3 générations.
Ouais.
Mon grand-père était médecin. Il avait même soigné des gens de la résistance.
Ouais.
Malgré tout, après la guerre, dans un régime qui s'était installé, non invité, si j'ose dire, on lui a tout pris.
Vous parlez du régime communiste.
Oui, on lui a pris son appareil Röntgen, on lui a pris sa maison, parce qu'elle donnait directement sur la police où on faisait terroriser les gens.
Oui.
Et
ça avait un impact sur vous?
Ça avait un impact sur mon père en premier.
Oui,
parce que mon père était aussi médecin. Il n'a jamais pu obtenir de sa carrière professionnelle ce qu'il méritait.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il avait un dossier.
Oui.
Et qu'est-ce qui était écrit dans ce dossier-là? Qu'il venait d'une famille bourgeoise. Parce que ma grand-mère était dentiste.
Oui.
Et donc, ce père-là, il a été obligé de suivre un cheminement dans la vie. Et il a plafonné un assistant de recherche.
Oui, mais on veut savoir maintenant sur l'impact sur vous, monsieur. Je veux savoir, pour vous-même. On sait que votre père, grand-père...
Dans toute la société, ouais. On avait une peur bleue de tout ce qui peut être dossier,
c'est transmis,
information...
Cette peur est transmise d'une génération à une génération.
Parce que
c'est le système, l'origine.
On a peur de son ombre dans un système comme
voilà.
ça.
Non, revenons maintenant à l'incident, là, c'est en question. Donc, à un moment-là, quand cette dame-là, elle vous a parlé sur ce temps-là, un petit peu agressif et tout, et elle vous a demandé...
Tout d'abord, je veux que vous notiez spécialement le fait qu'elle ne m'a jamais donné de raison pourquoi elle avait besoin de toute cette information-là.
Moi, quelle information? Elle vous a demandé votre nom ou quoi?
J'ai écouté une de vos émissions précédentes dans laquelle il y avait une question d'auditeur qui demandait est-ce qu'on est obligé de donner notre identification à un policier.
Ouais.
Mais remarquez que si un Québécois de souche pose une question comme ça, moi qui découvre la société en tant qu'un adolescent quasiment, je sais que j'ai les tempes grisonnantes et tout ça,
oui.
Mais je découvre cette société en tant qu'adolescent.
Oui.
Et il y a certaines choses que je ne suis pas tenu de savoir, je m'excuse, il y a bien trop d'informations que je dois gober et vivre avec.
Mais excusez-moi, vous ne le savez pas, je sais, mais vous venez de traverser au feu rouge, là, soi-disant la version de la policière. Elle a le droit, je ne sais pas, je
n'étais
pas là, mais soi-disant, vous disiez le contraire. Mais finalement, c'est pas grave. Mais elle vous demande, dans cette position-là, elle a le droit de vous demander votre pièce d'identité.
Mais je concède. Je concède le fait. Mais ça n'empêche pas que l'approche est violente et intimidante dès le début. Méprisante, profilage, etc. Parce qu'elle n'aurait pas eu ce comportement vis-à-vis de quelqu'un de souche avec une Mercedes qui sort d'une maison de la ville Mont-Royal.
Oui, je comprends.
Est-ce que le brigadier s'est adressé à vous, vous a empêché de traverser ou autre?
Non, pas
alors,
du tout.
C'était ses fonctions. C'était la fonction du brigadier qui devait vous retenir et vous a laissé passer de ce fait. Vous avez le droit de traverser.
Ouais.
Et je m'excuse, le brigadier a des fonctions.
Revenons à l'attitude. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude. Donc, une fois je sais que vous avez réagi à ce moment-là, vous commencez à paniquer, ça remonte un petit peu très loin.
J'ai une attaque de paranoïa sans pareil.
Là, sur le coup, elle vous demande, monsieur, c'est quoi votre nom? Vous disiez.
Mais à ce moment-là, j'avais absolument aucune envie de partager mes informations personnelles avec elle. Aucune.
Est-ce que avez-vous donné un nom ou quoi que ce soit?
Ben, j'ai commencé par lui donner des informations qui n'étaient pas les bonnes.
Exact.
Parce que j'avais aucune envie d'avoir mon dossier personnel sur son calepin.
Je comprends.
C'est une personne qui avait l'air pas crédible dès le début, qui mentait dès le début.
Non, je comprends, mais vous paniquez sur ce coin-là, je suis complètement d'accord avec vous, vous paniquez, et sans se rendre compte, vous ne donnez pas l'exactitude de votre identité, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé après, monsieur? Est-ce qu'elle a été allée contrôler ce que vous l'avez donné, puis elle a trouvé que c'était fou, quoi?
Elle m'a posé des questions à rafale. Ça a duré probablement 30 secondes. C'était comme dans un cauchemar.
Oui.
Je répondais machinalement, mais toujours sans envie de partager avec elle
l'information.
L'information.
Oui.
Et puis, elle était rendue au code postal. Et puis, moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh, là, qu'est-ce qui se passe? Là, elle n'a aucune intention de me laisser aller. Parce qu'au début, je pensais, regarde, elle est en train de fabriquer de toutes pièces une accusation. Et puis, maintenant, elle me demande mes informations. À quoi ça sert tout ça? Elle ne m'a jamais donné des raisons.
Je comprends.
Elle ne m'a pas dit, je vais vous donner un billet pour avoir grillé le feu rouge. J'ai besoin de votre adresse pour la poster.
C'est l'interrogatoire.
C'est pas ça qu'elle m'a dit.
C'était un interrogatoire
comme si j'étais un pusher de drogue.
Mais là, quelques fractions de secondes après, vous vous rendez compte et vous donnez votre vrai nom. Est-ce que c'est exact?
Au moment du code postal, Je lui ai dit, écoutez, madame, voici ma sacoche, nom, oui. Voici mes documents, mon vrai nom.
C'est ça, voilà. Oui. Donc, ça veut dire, vous avez rattrapé après quelques fractions de secondes, lui dire, madame, écoutez là, je sais pas ce qui m'arrive, je panique, et vous avez commencé à livrer la réalité, vous lui donnez même le papier et tout.
Mais oui, j'avais tous mes documents dans ma sacoche de vélo, qui est d'ailleurs très prominente, c'est une sacoche Pélican, oui. Rouge, énorme.
Ok. Une fois vous avez donné votre vrai nom, votre adresse, les papiers et tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que madame, elle vous a dit, ok, je vais faire une infraction pour avoir grillé un feu rouge et vous partez, ou elle a fait quoi après?
Et là, aussitôt que j'ai dit la vérité,
oui, oui.
Et toutes mes informations, et je lui ai montré où est-ce qu'elle pouvait les chercher.
Oui.
Je ne sais pas, elle a peut-être paniqué en pensant qu'elle allait trouver une bombe dans
votre sac.
Et elle a dit, hop, là, on a eu le parrain de la mafia de Montréal qu'on recherche, etc.
Et elle a pris un renfort ou quoi?
Et elle a commencé par me lire les droits.
Ah, on est en arrestation?
Oui.
Ah, ok.
Ultérieurement, dans le rapport, c'est marqué qu'elle allait vérifier mon identité. Et moi, l'état de panique est revenu,
ouais,
en force.
Ouais, ouais, ouais.
Et je me suis dit, mais maintenant, je vais être arrêté, avoir des histoires de justice. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train tout simplement d'essayer d'aller travailler et je suis déjà dans ce pétrin-là à cause de 30 secondes de panique et du passé qui me rattrape depuis mes 30 ans de communisme.
Oui, oui.
C'est
mais là, je veux savoir, monsieur, je veux savoir, c'est sûr, elle est un peu vraiment drôle et bizarre. Et c'est ce que je veux savoir maintenant, une fois vous lui avez donné les papiers et tout, vous avez livré la vérité,
Attendez, elle n'est pas allée les chercher, les papiers. Je vous ai dit, elle avait probablement peur.
Ah, vous l'avez mentionné comme quoi tous mes papiers sont dans le sac.
Oui.
Et elle avait.
Elle m'a ni donné la possibilité d'aller les chercher, ni elle est allée les chercher elle-même.
Elle a fait quoi?
Elle a commencé à crier de plus belle.
Oui.
Elle m'a dit de mettre les mains sur le toit de sa voiture.
Vous avez noté?
Non. Remarquez que non.
Elle ne vous a pas approché, oui.
Mais remarquez, j'étais absolument figé, passif, comme un bout de glace.
Est-ce qu'il y a un renfort, monsieur? Est-ce qu'il y avait des policiers qui sont venus à...
Attendez un peu avant le renfort. Elle était derrière moi. Je ne pouvais pas la voir parce que mon cou est à mobilité réduite, étant donné que j'ai eu un accident de vélo il y a une dizaine d'années. Je ne pouvais pas la voir, mais j'étais figé. Je n'étais absolument pas dans l'envie de faire quoi que ce soit. Je lui disais seulement, madame, avec ce que vous faites là, vous allez m'entacher la vie à jamais.
Mais excuse-moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment passer à l'action, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Elle était toute seule dans la voiture.
C'est ça.
Ils sont deux.
Qui était allé chercher dans le document dans votre sac?
Personne, pour le moment.
Non, mais il faut me le dire maintenant, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Tout d'abord, la gente a dit que... Et étant donné que je lui l'ai supplié de ne pas me faire ça, elle a écrit dans son rapport que j'avais été agressif.
Oui, mais ça, c'est pas grave. Je veux savoir qui était allé chercher dans le sac vos papiers, monsieur.
Pour l'instant, personne. Elle a téléphoné par la radio pour appeler des renforts.
Des renforts. Les policiers sont venus sur le coup, sur le lieu.
Mais comment se fait-il qu'elle était toute seule dans la voiture?
Monsieur Roland, si on ne respecte pas le temps, on va passer à travers.
Oui.
Je veux savoir, une fois le renfort est venu vraiment pour aller ouvrir le sac, j'imagine?
Les renforts ne sont pas venus pour ouvrir le sac. C'est curieux pourquoi les renforts ont été appelés, parce qu'au moment où ils sont arrivés, la première parole que j'ai eue de leur part était « Monsieur, vous n'irez pas au travail aujourd'hui ».
Voilà, c'est parfait. Vous êtes en état d'arrestation. Est-ce qu'ils vous ont passé les menottes sur le lieu?
Pourquoi c'était la première phrase qu'il fallait qu'ils me disent?
Non, mais ça c'est...
Pour vérifier mon identité. Pourquoi c'était la première phrase?
Est-ce qu'à ce moment-là, ils vous immobilisent?
À ce moment-là, ils ont tous les deux, c'était deux garçons très forts dans la force de l'âge et de l'entraînement. Ils ont pris mes deux bras, chacun avec deux mains.
Ouais.
Donc, quatre mains contre mes deux bras figés.
Ouais. Okay? Et puis, ils ont passé les menottes.
Non. Ils m'ont ramené à terre et l'un des deux s'est mis à me battre comme un sac.
Ils vous ont battu?
Oui, battu. Dans le dos, dans les reins. J'avais des bleus.
My God.
J'avais des bleus. Je suis allé pour une certification médicale et j'ai eu
un examen. Deux policiers qui sont arrivés sur le lieu, monsieur, vous ont battu.
Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose?
Un des policiers m'a battu, en fait.
Oui, avec des coups.
Mais l'autre a tenu mes mains exactement la même image comme sur le clip de YouTube dans lequel l'un des policiers enlève les mains pour que l'autre puisse le tabasser.
Ils vous ont battu.
Oui, battu, ramené à terre et battu. Et encore battu, malgré que je les suppliquais d'arrêter.
Il y a une question tout de suite là, qui m'intrigue. Ces deux policiers sont venus après dans un véhicule.
Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé, enfin.
Absolument pas.
Ils arrivent sur le lieu, disent d'un seul coup, ils vont vous battre.
Et elle était toute seule dans sa voiture. Et il y avait un brigadier.
Ouais.
Je m'excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système.
Ouais. Mais monsieur, je veux savoir, après ça, qui a ouvert le sac maintenant? C'est des policiers qui sont allés ouvrir le sac?
C'est la policière qui a ouvert le sac.
Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'elle a découvert dans le sac? Est-ce qu'il y avait une bombe dans le sac?
Il y a quelque chose d'important ici. Après m'avoir battu et ramené à terre, etc., ils ont prétendu que j'avais fait une tentative de saisir l'arme du policier qui m'a battu.
Ah, mais c'est toujours ça. Si vous ont battu, il faut qu'ils trouvent une excuse pour ça.
Remarquez, dans le rapport de police, c'est marqué que j'avais résisté à ce que je sois amené à terre.
Ouais.
J'avais fait quoi pour être amené à terre? Est-ce que je m'appelle le docteur Turcotte? Est-ce que je m'appelle un membre de la famille qui se fait suivre à Kingston? Pourquoi amener à terre? Pour quelle raison, je demande?
Oui, mais écoutez, votre histoire là,
depuis quelque temps, les policiers se permettent de donner des coups à des gens, je m'excuse.
Et vous êtes maintenant poursuivi... De voie de fait ou de quoi?
Je suis poursuivi pour entrave à la justice.
Entrave à la justice, Et là, l'histoire de comme quoi vous avez voulu prendre
la
garde...
Et bien sûr, la policière a bien oublié que je lui avais montré ma sacoche. Et dans un rapport totalement incohérent, elle a marqué d'abord que je lui avais montré ma sacoche. Et après ça, 2 heures plus tard, elle dit « J'ai retrouvé sa sacoche et j'ai retrouvé sa vraie identité.
» Et puis, mais dans
et maintenant, elle est prête à recevoir sa promotion, sa médaille.
C'est des vrais metteurs en scène.
Mais quand ils ont ouvert le sac, ils ont trouvé quoi dans le sac? C'est des livres
et tout ça dans une atmosphère de mépris, d'harcèlement, de diminution, d'arrogance, d'insulte. Comment j'avais été la risée du quartier? Comment je suis un exemple qu'elle ne peut pas se souvenir depuis 10 ans de sa carrière dans les rues? Comment j'étais unique dans mon genre?
Dernier mot pour vous, monsieur. J'aimerais bien savoir, je sais que vous ne voulez pas dévoiler le nom des policiers, vous ne voulez pas dévoiler le nom du lieu, vous ne voulez pas dévoiler votre propre nom parce que tout ça, il est en enquête présentement. Je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux citoyens qui étaient victimes, qui sont victimes, qui vont être victimes?
Qu'est-ce que je vais vous dire?
En une minute, monsieur.
Moi, je pense qu'il faut faire très attention et surtout ne pas hésiter à se plaindre. On est, pour 3 fois moins que rien, on est tous des putains. On a tous chacun à se reprocher. Mais il ne faut pas hésiter de dénoncer ça, ça n'a aucune allure. Le policier n'est pas là pour criminaliser le faible.
Voilà donc, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. J'aimerais remercier monsieur pour son témoignage et son courage. Je remercie monsieur Roland Cazès pour sa participation, madame Rosemonde aussi, et Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette place pour que la parole des autres, de l'autre existe. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant longtemps.
Tant longtemps, une émission de musique rétro agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne. Des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps.
Tant longtemps, animé par Brady Donissin et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Tant longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer.
Mike's Notebook. Avec Stan Asher et copilote Davin Ryle, votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arts Notebook. Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.